9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Saint-Cyr, en bordure du parc de Versailles, à l'été 1688. Ça fait 2 ans que Madame de Maintenon a réalisé le grand souhait de son existence, ouvrir une école à de jeunes filles nobles, des jeunes filles qui n'ont pas les moyens de suivre une haute éducation. Il faut vous dire que l'épouse morganatique du roi de France n'a pas oublié son enfance. Elle a 49 ans, mais elle se souvient de cette sorte de misère dans laquelle elle a traîné sa propre jeunesse, misère éducative qui existe au sein des classes pauvre d'une noblesse qui n'est pas toujours très cossue. Alors c'est pour répondre à cette misère qu'elle a voulu fonder une école, et le roi lui a cédé ce terrain de Saint-Cyr. Il a demandé à Jules Hardouin Mansart de superviser les travaux. Et voilà que 250 jeunes filles, désormais, peuvent recevoir l'éducation qu'elles n'auraient jamais pu connaître si elles étaient demeurées dans leur province. Madame de Maintenon se rend à Saint-Cyr le plus souvent qu'elle peut. Elle vient là se ressourcer, se mêler à cette foule de jeunes filles. Elle vient mettre la cour à distance, la cour avec toutes ses intrigues épuisantes. L'épouse du roi souhaite que ces jeunes filles fassent du théâtre. Elle attribue à cet art des vertus pédagogiques. Elle n'est pas la première à le faire. Vous savez à quel point les jésuites avaient fait du théâtre un instrument d'éducation. Nous sommes dans le grand siècle et ce ne sont certainement pas les chefs-d'œuvre qui manquent sur la scène. Et tout naturellement, Madame de Maintenon pense aux pièces des deux grands auteurs du siècle, à Pierre Corneille, bien entendu, et à Jean Racine. En 1688, Corneille est mort. Ça fait déjà quelques années que Corneille n'est plus. Quant à Jean Racine, lui, eh bien, il n'est âgé que de 49 ans, comme elle. Il n'a cessé d'écrire pendant toute une grande partie de sa vie et maintenant il s'est retiré du théâtre, en tout cas, parce que Louis XIV a fait de lui son historiographe personnel, de lui et de Boileau. Ça fait 11 ans déjà que Racine écrit tout ce qu'il y a d'officiel concernant le roi. Qu'importe, Madame de Maintenon a l'intention de faire jouer à ses jeunes filles, aux jeunes filles de son école, un certain nombre de vers. Elles vont déclamer Corneille et puis Racine sur scène seulement. En les voyant comme ça se mouvoir dans Andromaque ou dans Bérénice, Madame de Maintenon se dit que les pièces en question ne sont peut-être pas très adaptées quand même. Elle a peur que la passion qui nourrit ces vers, et notamment les vers des pièces de Jean Racine, que cette passion ne vienne à pervertir un peu les jeunes filles dont elle a la charge. C'est Madame de Quélus, bien sûr, si proche de Madame de Maintenon, qui nous le raconte. Cependant, comme elle était persuadée que ces sortes d'amusements sont bons à la jeunesse, qu'ils donnent de la grâce, apprennent à mieux prononcer et cultivent la mémoire, elle écrivit à Monsieur Racine « Nos filles viennent de jouer Andromaque et l'ont si bien joué qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces. » Elle le pria dans cette même lettre de lui faire dans ses moments de loisir quelque espèce de poème moral ou historique dont l'amour fut entièrement banni et dans lequel il ne crut pas que sa réputation fût intéressée puisqu'il demeurerait enseveli à Saint-Cyr. Racine doit être un peu embarrassé en recevant cette lettre. Il est à la cour maintenant, il occupe à Versailles une charge prestigieuse, et voilà que l'épouse du roi, on ne sait pas à la cour que Madame de Maintenon a épousé secrètement Louis XIV, mais enfin, Racine est un peu dans la confidence tout de même, et voilà donc qu'elle lui dit que ses pièces sont un peu trop passionnées pour les jeunes filles de Saint-Cyr, et qu'en même temps, ce serait bien de reprendre la plume pour leur donner quelques modèles. Oh, une pièce qui resterait strictement ensevelie à Saint-Cyr, n'est-ce pas? On n'aurait pas à s'exposer aux regards et aux critiques ni de la cour, ni de la ville. Jean Racine est embarrassé, je vous le dis, mais que voulez-vous qu'il fasse? Il accepte évidemment la proposition, les désirs de Madame de Maintenon sont un peu des ordres, et il se dit qu'après tout, il y a là pour lui l'occasion de donner une dernière fois la mesure du génie dramatique dont il n'aura cessé de fournir les théâtres parisiens. Après tout, ça va être, pour M. Racine, un aboutissement.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il était né en décembre 39, Racine, à La Ferté-Milon, en Picardie. Il a vécu ses premières années dans une famille de petits notables où il n'avait pas vraiment de titre. Enfance marquée par les deuils puisque sa mère meurt en couche à la naissance de sa petite sœur, ce qui veut dire qu'il a 2 ans à l'époque. Son père, 2 ans plus tard, va mourir à son tour et c'est aux grands-parents paternels qu'est confié le petit garçon. Vers l'âge de 10 ans, sa famille l'envoie à Paris pour étudier aux petites écoles de Port-Royal, cette abbaye qui est à Paris où règne le jansénisme. Vous savez, c'est ici que se rend Racine, parce qu'une de ses tantes est sœur dans l'ordre de Port-Royal. Et c'est depuis Port-Royal, alors d'abord à Paris et ensuite dans l'abbaye de Port-Royal des Champs, dans la vallée de Chevreuse, que Racine va assister à tous les soubresauts politiques du moment, que ce soit la Fronde, évidemment, contre Mazarin et la régence d'Anne d'Autriche, ou bien les attaques politiques que les jansénistes subissent. Racine aperçoit Blaise Pascal, il voit le grand Arnaud et les grands intellectuels qui sont là à Port-Royal. Et en 56, quand Mazarin ordonne la fermeture des petites écoles, Racine n'est âgé que de 17 ans et lui va rester à Port-Royal. Les frères l'imaginent parfaitement épouser la carrière ecclésiastique, mais c'est pas ce que va faire Racine, il aime trop les vers pour ça, et la prose aussi d'ailleurs. En 1659, le voilà qui quitte Port-Royal, il va s'en aller vivre à l'hôtel de Luynes avec son cousin Nicolas Vitard. Il y a une chose qui caractérise Jean Racine et qui toute sa vie va l'animer, va peut-être un peu le dévorer de l'intérieur, c'est l'ambition. Il lui faut grimper dans cette société d'ordre où les hiérarchies sont très établies. Racine sait qu'il a une arme. Alors c'est une arme dont on ne peut pas dire qu'elle soit toujours très visible, mais elle est là et elle est très efficace et c'est son intelligence. Il est prêt à tout pour grimper dans la hiérarchie. Lorsqu'il quitte cette vie de Port-Royal, vie rigoureuse, il va se jeter littéralement dans la vie parisienne. Dans son dictionnaire du grand siècle, enfin le dictionnaire qu'a dirigé François Bluche, voici ce qu'écrit Noémie Hepp à propos de Jean Racine. Sans scrupule, à l'âge de 20 ans, Jean Racine ne songe qu'aux moyens de parvenir et qui bientôt reniera avec autant d'esprit que de vigueur ses anciens maîtres et sa famille adoptive. Un homme d'une souplesse infinie qui, né petit bourgeois, parviendra grâce à une échelle dont il aura soigneusement préparé lui-même les barreaux à une sorte d'intimité avec le grand roi. Il est dans cette stratégie d'élévation. Jean Racine, il est maintenant l'ami de La Fontaine. Il demande des conseils aux uns aux autres. Il écrit des vers pour louer les puissants, bien sûr. En 1661, il va se commettre au théâtre avec Amasie et Ovide. Échec complet, personne ne veut jouer ces pièces-là. En novembre 61, alors que Mazarin maintenant est mort depuis le printemps et que le règne personnel de Louis XIV commence, Jean Racine se rend à Uzès, où l'un de ses oncles détient un bénéfice ecclésiastique. Il est donc dans le Midi en attendant de pouvoir disposer de ce bénéfice. Il hésite entre les différents choix d'une carrière qui s'offre à lui et c'est à Uzès qu'il va devoir choisir entre la prêtrise d'un côté et, j'allais dire la traîtrise en tout cas, de l'autre, les lettres. C'est Skip Sempé qui était au clavecin dans ce merveilleux prélude de François Couperin, intitulé pour coller avec le sujet d'aujourd'hui, l'art de toucher le clavecin.
Vous écoutez Radio Classique.
Racine va quitter Uzès après 1 an et demi, il abandonne les perspectives ecclésiastiques. Il avait entretenu une grande correspondance avec Paris, notamment avec La Fontaine, auquel il écrivait « J'ai bien vu du pays et j'ai bien voyagé depuis que de vos yeux les miens ont pris congé ». Mais ce qui l'a convaincu d'abandonner ses idées de carrière ecclésiale, c'est avant tout l'absence de confirmation d'un bénéfice, disons les choses. Au printemps 63, il rentre donc à Paris, il apprend qu'à l'époque Louis XIV a la rougeole, il se met en tête d'écrire une ode sur la convalescence du roi, des vers qui le font remarquer, ça fait une petite bourse annuelle de 600 florins, et en octobre 63, il fait une seconde ode pour remercier le roi de lui accorder ses prébendes, ode qui s'intitule « La renommée aux muses » et qui permet à Racine d'assister pour une première fois à la cour, d'assister au lever du roi. Il va rencontrer Molière là, forcément. Et le voici, si j'ose dire, dans la cour des grands. Racine écrit une première pièce, « Thébaïde », tragédie en cinq actes qui a pour sujet le combat et la mort des deux jeunes fils d'Œdipe, ainsi que celle de leur sœur, Antigone. Et par un heureux hasard, Molière se voit interdire la même année sa pièce Tartuffe, le théâtre du Palais Royal. Cherche donc quelque chose qui pourrait remplacer. Molière se tourne vers Racine et on va jouer comme ça Thébaïde, qui va connaître un succès relatif. Molière aime bien Racine. Il accepte de faire jouer l'année suivante une autre pièce, Alexandre le Grand. Deux pièces sont encore au-dessous du génie que Racine va bientôt montrer, mais elles le révèlent quand même. Il a 25 ans à l'époque, il se lance dans l'écriture d'Andromaque. Inutile de vous dire qu'il s'est un peu brouillé avec les jansénistes. Mais il a de bons protecteurs, il vole, si je puis dire, de femme en femme. Bref, Jean Racine est en train de faire son chemin dans la cour de Louis XIV. Et lorsqu'Andromaque est lue à Madame, à la belle-sœur de Louis XIV, eh bien Madame se met à pleurer. La pièce sera jouée dans les appartements de la reine pour sa première, vous imaginez ça? Et très vite, elle connaît le succès, tragédie en cinq actes qui se résument en une phrase. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui cherche à protéger son fils Astyanax, tout en restant fidèle au souvenir de son mari Hector, tué par Achille en combat singulier, vous savez, pendant la guerre de Troie. Oreste dit à Hermione tout l'amour qu'elle ressent pour Pyrrhus. Et vous le haïssez, avouez-le, madame, l'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux, et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Et voici ce qu'Andromaque dit pour évoquer l'amour qu'elle porte à son fils, Astyanax, avec le souvenir douloureux de son mari Hector. « Ma flamme pour Hector fut jadis allumée, avec lui dans la tombe, elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous saurez quelque jour, madame, pour un fils jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas, du moins, je le souhaite, en quel trouble mortel son intérêt nous jette. Lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste et qu'on veut nous l'ôter. » Les vers de Racine ont tout de suite du succès. Ils touchent le public, ils l'ont touché jadis et naguère, et maintenant ils le toucheront toujours. Racine récuse les règles si prisées depuis les années 1630, nous dit Noémie Epp. 20 fétiches à ses yeux, il leur dénie toute autorité. Il n'y a de prise de position très novatrice que dans la proclamation du but exclusivement esthétique de la tragédie, donner du plaisir au spectateur par les émotions qu'on suscite en lui, au mépris du but d'éducation morale qui prévalait chez tous les théoriciens du genre. Le poète tragique doit produire l'émotion et plutôt la pitié que la terreur en pratiquant la rigueur avec une action grande mais simple, un seul centre d'intérêt, la réduction des scènes au seul nécessaire. Et si ces personnages doivent éprouver de nombreux sentiments, c'est à partir de peu de passion et de manière toujours intelligible, c'est-à-dire conforme à une vérité humaine générale dont le bon sens est juge. Voyez le saut là qui a été accompli depuis Corneille. Racine va écrire d'autres pièces qui vont être un triomphe. Britannicus, Bérénice, où on retrouve cette passion qui devient sa signature, en quelque sorte. Et sa notoriété est en train, peu à peu, de faire de l'ombre à Corneille, voire un peu de l'éclipser. Molière s'en prend de plus en plus à Racine. Il faut vous dire qu'il y a des histoires là qui sont liées à la vie des troupes, et notamment Marquise du Parc, la maîtresse de Jean Racine va mourir dans des circonstances que j'ai eu l'occasion de vous raconter. Il a une autre maîtresse, la Champmeslée. En 1672, Louis XIV fait entrer Racine à l'Académie. On peut dire désormais, sans se tromper, que le dramaturge a parfaitement réussi ce dont il rêvait. Il a fait son ascension. Il est désormais près du sommet. L'ensemble d'Unedine Consort, sous la direction de John Booth, interprétait le chœur final de George Frédéric Handel pour cette Esther qui s'inspirait justement de Jean Racine.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
1674, après deux ans après son entrée à l'Académie, Racine est carrément anobli et il reçoit la charge de trésorier général à Moulins. C'est une sinécure, hein, c'est juste un moyen de gagner un peu d'argent. Racine va publier Mithridate et puis Iphigénie, et tout ça est joué par la troupe de l'hôtel de Bourgogne. Et en 77, c'est Phèdre, vous savez, qui, en pensant son mari disparu, elle est convaincue de la mort de Thésée, s'éprend du fils que Thésée avait eu avec une Amazone. Le fils en question, c'est Hippolyte. Et voici le passage célèbre où Phèdre annonce à Hippolyte qu'elle l'aime. « Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point échapper. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier ton offense, au-devant de ton bras je le sens qui s'avance. Frappe, ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. » Cet amour impossible va donner un des grands chefs-d'œuvre de notre littérature. Phèdre n'aura cependant pas de lendemain parce qu'une cabale va être montée. Jean Racine est dégoûté de tout cet univers terrible, de ce panier de crabes du théâtre et décide de se consacrer à la haute charge que lui a confiée le roi, celle d'historiographe. Donc, il va quitter cette vie un peu de saltimbanque. Il va même finir par désapprouver le théâtre. Il va se marier également. Il fait une fin, comme on dit, avec Catherine de Romanet. Il aura 7 enfants avec Catherine. Racine se met à vivre de façon très rangée, très pieuse. Ça n'a jamais changé dans toute sa vie en même temps. Il faut en tout cas il faut cette vie rangée pour assumer le rang de courtisan. Il fait partie de la cour du roi de France. Cette ascension fait de lui un gentilhomme ordinaire de la chambre, secrétaire du roi, lecteur du roi, même s'il n'en a pas tout à fait le titre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous comprenez pourquoi, quand Madame de Maintenon veut le ramener au théâtre et lui demande d'écrire pour Saint-Cyr une œuvre, donc en 1688, ça fait 11 ans que Phèdre a été présenté, Racine, évidemment, est un peu embarrassé, et en même temps, il a mûri, son talent est toujours là, et il a besoin de s'exprimer, ce talent, autrement que dans les vers qu'il peut pondre en tant qu'historiographe du roi, bien sûr. Alors il accepte, il écrit, se jette dans l'écriture d'Esther. En janvier 89, ce sera la première, en présence du roi et de Madame de Maintenon, bien sûr. Bon, la pièce raconte l'histoire d'Esther, épouse d'un souverain perse qui, dans la Bible, va sauver les Juifs de la vengeance meurtrière d'un conseiller royal, on connaît tout ça. Les élèves de Saint-Cyr répètent la pièce pour la donner au mieux. On sait qu'on va jouer devant le roi. Tout le monde veut assister, on s'arrache les rares billets disponibles. C'est André Castelot qui nous le raconte. Le roi s'amuse à jouer les contrôleurs à l'entrée de la salle, se servant de sa canne pour faire barrière et interdire l'entrée aux éventuels resquilleurs. Sa Majesté sévère ne laisse passer que les personnes conviées, pour ne pas gêner les petites comédiennes, donne l'ordre de fermer la porte dès le lever du rideau, tant pis pour les retardataires. À la fin de la représentation, Louis XIV, avec infiniment de bonne grâce, monte sur la scène et vient lui-même remercier les actrices. La pièce est un très grand succès, et pour cause, dans des conditions pareilles. Vous imaginez, Racine a fait en quelque sorte une synthèse entre sa vie d'auteur et sa vie de courtisan, et il a inséré dans la pièce des figures de droiture. Tout ça s'inspire de l'Ancien Testament. Oh, ça plaît beaucoup à Madame de Maintenon, qui va lui commander une autre pièce, et ça va être l'écriture, cette fois, d'Athalie. Athalie, veuve du roi de Juda qui gouverne le pays et croit avoir éliminé tout le reste de la famille royale. Elle a abandonné la religion juive en faveur du culte de Baal. Elle est païenne en quelque sorte. Et son petit-fils, Joas, a été sauvé par la femme du grand prêtre. Et ça, elle ne le sait pas au départ, Athalie. Le grand prêtre incarne la morale religieuse, droite et juste, sans faille. Promettez sur ce livre et devant ses témoins que Dieu fera toujours le premier de vos soins, que sévère aux méchants et des bons le refuge. Entre le pauvre et vous, vous prendrez Dieu pour juge, vous souvenant, mon fils, que caché sous ce lin, comme eux, vous fûtes pauvre et comme eux, orphelin. Madame de Maintenon, quand même, subit des pressions. On se dit que ces pièces de Jean Racine sont tout de même trop chargées de sentiments et peu adaptées à des jeunes filles qui s'échauffent en le jouant. Et d'autant plus que ces jeunes filles, évidemment, vont se passionner encore plus qu'on pourrait l'imaginer pour des représentations qui deviennent peut-être un peu trop importantes dans le cursus de leur éducation. Et finalement, Madame de Maintenon décide qu'on ne jouera pas Athalie et Racine prend ça pour, on peut dire, pour un camouflet. Il va cesser d'écrire des tragédies, à jamais cette fois. D'ailleurs, sa santé décline. Il n'a que 59 ans, Racine, mais on va le voir prendre ses distances. Est-ce qu'il aurait connu la disgrâce? On dit qu'il se serait... Enfin, quand je dis on, c'est Saint-Simon, nous dit qu'il se serait montré maladroit devant Louis XIV et Madame de Maintenon en évoquant le poète Cujat Scarron, dont l'épouse du roi était la veuve. En tout cas, Racine ne meurt pas tout à fait en odeur de sainteté. En avril 1698, il avait une tumeur au foie, un abcès. Il va demander à être enterré à Port-Royal des Champs, auprès de ses anciens maîtres. Mais quand, plus tard, Louis XIV va détruire Port-Royal en 1710, il va falloir déplacer le corps et on l'installera dans la belle église de Saint-Étienne-du-Mont, sur la montagne Sainte-Geneviève.
Vous écoutez Radio Classique.
Quand il parle de Saint-Étienne-du-Mont, Jean-Baptiste Galen sait de quoi il parle, il y habite. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour, bonjour. Je pensais à certaines pièces qui chauffaient un peu les jeunes comédiennes. Heureusement que Sandrine Rousseau n'était pas dans la salle, on ne sait jamais. Ah oui. Ça aurait posé problème. Alors, il y a Philippe Noiret qui a raconté cette histoire merveilleuse. C'est Racine qui rencontre Corneille, et vous savez dans le milieu du théâtre comment ça se passe. Il dit « Alors ta pièce, ça marche bourré tous les soirs ». etc. Le roi n'est pas venu vous voir quand vous fûtes au théâtre, mon cher.
Et Franck. Non. Enfin, en tout cas, je ne sais pas qui vous appelait le roi, mais.
Celui qui est le président de tous les Français.
Ah voilà, non, pas cette pièce-là, en fait.
Faire allusion à votre lecture. Racine, qui dormait très bien, paraît-il. Il dormait comme une souche. Bien. Oh. Excellent. Oui, enfin, bon, c'est pas de moi.
Très inspiré ce matin.
Oui, mais ça arrive. Nous sommes mardi, c'est pour ça.
En fait, c'est ça.
C'est pour ça.
Jour de mars.
On reste dans les gens de lettres. Anna de Noailles sera évoquée à 14h cette
semaine. N'est-ce pas? Oui, non, que des auteurs aujourd'hui. Enfin, cette semaine.
Montesquieu, la Bruyère, etc. André Malraux, même.
On retrouvera d'ailleurs tous ces auteurs dans les podcasts, hein, ce qui va permettre à ceux qui voudraient se plonger dans la littérature française d'avoir de nombreux exemples et de nombreuses possibilités.
Et j'allais dire de se constituer une très belle collection avec la voix de Franck Ferrand, que vous retrouvez à 8h05 avec David demain matin. Et puis, bien sûr, à 9h, je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à vous.
Que faites-vous aujourd'hui? Écriture,
je
balade,
vais
conférence.
Répéter avec M. Gasparian pour la soirée de jeudi.
De jeudi, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, on est fera un peu plus allusion demain matin avec Mozart, Gasparian et Franck Ferrand. Eh bien, celui qui sera le plus absent, mais raconté par Franck, c'est Mozart, évidemment. Je crois que ça s'annonce quand même.
À mon avis, il sera très présent.
Oui, une très belle soirée. Déjà bien pleine. Mais enfin, renseignez-vous, il y a toujours des petites places qui restent.
Je crois que c'est complet, pour être très honnête.
Enfin, bon, on peut être honnête, on peut téléphoner aussi. Sait-on jamais. Ou alors faire une deuxième soirée, pourquoi pas.
Mais oui.
Ou partir en tournée. Merci, Franck.